Cette conférence veut être un échange, donc si vous voulez, il va y avoir deux temps. Un temps, effectivement, où Madame Horwesch va présenter le contenu de la conférence Vieillir ensemble, et puis un deuxième temps d'échange. Cet échange peut se faire soit par vous vous levez, vous posez votre question, ou au contraire, si vous estimez que cette question est un peu personnelle et intime et que vous n'osez pas la dire en public, eh bien, on va faire passer des petits papiers pour que vous puissiez noter vos questions. Alors, parlons en deux mots, avant que je donne la parole à Madame Horwesch, de cette soirée. Comment parler du vieillissement dans la société d'aujourd'hui où il est interdit de vieillir? Parler du vieillissement génère en effet des peurs. Peur de la solitude, peur de la déchéance, peur de la dépendance, peur de la mort. Avec l'allongement de la vie, la cohabitation de 4 ou 5 générations dans une même famille, l'éclatement des familles, le schéma traditionnel du vécu des familles est bouleversé. Vieillir exige des remaniements personnels et des évolutions de notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Vieillir, c'est vivre, et vivre, c'est vieillir. Alors, posons le postulat de vieillir ensemble et je donne la parole à Madame Horwesch.
Vous m'entendez? Oui. Bien, bonsoir. Alors, mes amis de l'association, en me proposant ce thème, en dehors du stress de vous parler, qui va disparaître dans un moment, elles m'ont un peu dérangée, parce que c'est effectivement un sujet pas forcément toujours très drôle. Et puis finalement, en lisant un certain nombre de choses, des articles, eh bien, ça m'a passionnée. Donc vous me direz, c'est bien, parce que comme ça, je ne pourrais pas vous dire que des choses négatives. Alors donc, le vieillissement, même s'il n'est pas nié, il est quand même susceptible de poser des problèmes, parce qu'on ne peut pas faire qu'on ne vieillit pas. C'est incontournable. Alors, c'est un phénomène biologique, physiologique, culturel. À partir de 20 ans, les processus de vieillissement apparaissent. Vous voyez, ça va déjà très vite. Progressivement, évidemment. Des changements qui sont liés au passage du temps. À cette époque-là, on appelle ça la maturité. Non, il a pris de la maturité. Mais ça aboutit invariablement à la mort. Et c'est, je crois, ce qui est extrêmement dérangeant. Cela, nous le savons tous. Mais le déni existe dans le vieillissement. Et surtout, la vieillesse dérange. Nous sommes dans une société narcissique. Vous verrez que c'est un mot que je vais employer souvent, mais je crois qu'il est connu. Cette société où on n'a pas le droit d'être moche, d'être gros et d'être vieux. Alors ça, surtout pas vieux. Quand on parle avec des jeunes, ils nous disent, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi, avec les étudiants que je rencontre de temps en temps, ils me disent, on n'aime pas les vieux. Dans la majorité. Donc, à 30 ans, on repère que l'ensemble des organes du corps humain commence à montrer progressivement, heureusement, des signes irréversible du vieillissement qui s'installe. Alors, quelques petits rappels, parce que c'est intéressant. C'est un sujet qui a passionné de tous les temps, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, ça a été un sujet passionnant. Alors, Aristote disait, la perfection du corps se situe à 35 ans. Hippocrate place le début de la vieillesse, lui, à 42 ans. Galien à 56 ans. Dante a 46 ans. Actuellement, nos sociétés industrielles placent l'âge du troisième âge à 65 ans. Je ne sais pas si ça vous convient, mais c'est ce que j'ai retrouvé dans beaucoup de mes revues. Et donc, c'est aussi déterminé. Alors, ça peut être un petit peu plus tôt, parce qu'on verra que dans les phénomènes du vieillissement, hélas, nous ne sommes pas du tout égaux. Donc 65 ans, c'est peut-être l'âge des futurs retraités, on ne sait pas ce qui nous attend. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est marqué par des choses importantes, notamment ce passage à la retraite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire d'intéressant? Alors, nous sommes un certain nombre d'adultes entre 50, 55 ans et 65 ans à être orphelins au moins d'un père ou d'une mère, si ce n'est pas des deux, plus tôt. Cette fameuse phrase qui montre combien les choses ont changé, c'est « Ma fille, va dire à ta fille que sa fille pleure ». Vous voyez que là, on compte 4 générations, si j'ai bien fait le calcul. On est, mais la plupart du temps, dans une société trigénérationnelle, c'est-à-dire 3 générations, au moins. C'est la composition traditionnelle actuellement de la famille dans nos sociétés. Alors, la vieillesse est un statut dans nos sociétés riche. Il vaut mieux être vieux dans nos sociétés riches. C'est beaucoup plus confortable dans nos sociétés modernes et développées. Même si il y a beaucoup d'inégalités sur le plan biologique et culturel, c'est beaucoup plus confortable d'être vieux en Occident qu'ailleurs. Alors, le vieillissement. Tout homme se sait mortel. Il y pense, mais beaucoup se comportent comme s'il ne devait jamais vieillir. Oh, on a le temps, c'est loin. Ce lointain à venir apparaît inconcevable. On ne veut pas. C'est dérangeant. Être vieux, c'est savoir sa vie derrière soi et vivre plus par le souvenir que par le présent. Bien évidemment, si on fait le bilan par rapport à l'âge qu'on a, on se dit qu'il n'y a plus de temps à perdre et qu'il y a encore des choses à faire si on doit les faire. Alors, quelques notions d'histoire dans la vie. L'espérance de vie depuis l'Antiquité, l'espérance de vie n'a cessé de grandir. Actuellement, c'est un trimestre par an. Alors, sous les Romains, c'est un trimestre par an. Je vous vois me... Oui, c'est ça. Je suis sûre. Autant il y a des choses dont je ne serais pas sûre. Comment ?
Un quart d'heure par jour.
Eh oui. Alors, chez les Romains, la vieillesse apparaissait à 18 ans. Au XVIIe siècle, c'était 25 ans. Au XVIIIe siècle, c'était 30 ans. Si bien que j'avais, dans une autre conférence par ailleurs, qui n'a rien à voir avec celle-ci, mais qui retrouvait des données identiques, les femmes ménopausées, ça n'existait pratiquement pas. Elles naissaient, elles faisaient des enfants, elles mouraient. Elles n'avaient pas de problème de règles. Les menstruations, c'était réglé. Bon, ça, c'est une aparté. Au 19e siècle, un Français sur deux était orphelin, de père ou de mère à 14 ans. Il se mariait à 17 ans, il avait un certain nombre d'enfants, c'est variable, entre 5 et 12 et plus, et il envoyait mourir à peu près 2 d'entre eux. Donc il y avait une mortalité infantile selon les saisons, selon les famines, qui était tout à fait importante. Alors que pouvait signifier le conflit des générations à cette époque-là ? Eh bien sûrement pas grand-chose par rapport à la nôtre et dans cette société trigénérationnelle, vous verrez que c'est vraiment extraordinaire ce qu'on vit. Quand on avait la chance d'avoir encore un parent et qu'il pouvait nous accompagner dans nos travaux de la ferme ou dans n'importe quelle activité, c'était un vrai bonheur, mais c'était peu fréquent. Et on s'en félicitait. Aujourd'hui, nous avons le conflit des générations. Celui des enfants de 18 ans contre les parents de 45 ans qui eux-mêmes sont en conflit, sont des fils de 45 ans qui sont en conflit avec leur père de 75 ans et voire plus. Donc, ces pères de 75 ans et voire plus qui détiennent pratiquement l'autorité patriarcale avec les biens. Alors vous imaginez tout de suite ce que ça peut faire sur le plan de la famille. Alors la gérontologie, donc, s'efforce d'expliquer les causes du vieillissement, parce qu'en fait, on a fait un peu le tour de la question, mais on n'a pas bien compris de façon scientifique précisément ce qu'il en était. Alors la gérontologie s'occupe de comprendre, d'expliquer les causes du vieillissement, et la gériatrie a l'ambition, si toutefois elle y arrive, mais elle y arrive tout de même, elle a l'ambition d'essayer de les maîtriser et de les soigner. Dans cette optique, l'être humain nourrit trois ambitions face au vieillissement. L'effacer, le prévenir ou le guérir. Tout du moins l'améliorer pour que cette dernière période de vie soit fort agréable. La vieillesse est-elle un état normal ou un état pathologique? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre, que nous puissions tous y répondre. Parce qu'il y a évidemment ces processus inévitables et normaux qui est le vieillissement, mais se greffent là-dessus des phénomènes pathologiques, des maladies, des dégénérescences, enfin un certain nombre de choses qui font que, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas égaux devant le vieillissement. L'inégalité biologique, cellulaire, physique, psychique, fait que nous ne vieillissons pas du tout au même rythme. Ça se voit physiquement, ça se voit sur le plan moteur, ça se voit sur le plan cognitif, ça se voit enfin, à tous les niveaux. On ne peut pas ne pas le voir. Alors, lorsque nous naissons, on dit d'un bébé qu'il pousse, qu'il s'éveille, qu'il grandit, d'un adolescent qu'il quitte l'âge bête pour devenir un mature, un adulte. Puis un beau jour, on dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a pris un coup de vieux? Pas très sympathique, mais enfin bon. Alors, dans certaines cultures, un vieux, c'est un sage, c'est une bibliothèque qui brûle. Dans notre culture, c'est très ambivalent. À la fois, il y a ce respect, et à la fois, quelquefois, c'est pas très supporté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis ça dérange. Alors, le vieillissement se présente souvent sous une forme d'angoisse. Les femmes représentent les deux tiers des personnes âgées. Et elles ont une espérance de vie à peu près de 10 ans supérieure à celle des hommes. J'ai retrouvé plusieurs chiffres, donc on va approximativement préciser l'âge, l'espérance de vie de l'homme et de la femme. C'est à peu près 84 ans, 85 ans chez les femmes. J'ai retrouvé plusieurs chiffres. Alors donc, j'ai pris la moyenne de tout ce que j'ai trouvé. Et à peu près 77 ans chez les hommes. Vous voyez que c'est tout à fait important. Alors, on peut dire que ce processus de vieillissement sur le plan psychique, parce que c'est surtout ça qui va nous intéresser, il est tout à fait en lien avec les images parentales, les relations entre parents et enfants. En effet, si nous ne sommes pas toujours des parents, nous sommes bien toujours des enfants d'une femme et d'un homme. Et d'un homme dont le devenir sous nos yeux va dessiner l'image de notre propre avenir, d'un homme et d'une femme, j'ai oublié la femme. Grandir, se développer, devenir ou vieillir avant l'âge se trouve souvent conditionné par le vieillissement de notre entourage et les identifications importantes que nous pouvons faire au troisième et au quatrième âge. Alors, dans la relation au corps et à la parole, dans le rapport à l'argent avec cette société trigénérationnelle, qui a les biens? Comment on les donne? On voit bien que sur le plan juridique, les lois évoluent. La symbiose narcissique et la culpabilité dans la relation de la mère à la fille. On pourrait dire, par exemple, que je disais que les jeunes n'aiment pas les vieux ou les vieilles. Il y a un certain nombre de soignants, fort heureusement, par rapport à leur propre histoire, qui se passionnent et qui adorent s'occuper du troisième et quatrième âge, fort heureusement, dans les unités de soins. Alors, c'est le sentiment d'être au monde lorsque ce n'est pas avec l'homme de notre vie, mais avec l'homme ou la femme de notre vie, c'est la mère qui fait que vivre s'apprend tout au long de la vie. Il n'existe pas au monde de personnes qui aient une telle occasion de s'identifier l'une à l'autre, et pourtant aucune relation humaine ne risque d'être aussi réciproquement restrictive. Si un petit enfant n'a pas pu vivre une période symbiotique réussie avec sa mère, il restera fixé dans cette demande de chaleur qui lui a manqué. Et moi qui suis psychothérapeute et qui écoute beaucoup de patients, on sent bien quand les carences sont présentes, quand les gens sont carencés, combien c'est difficile et combien leur chemin, leur identité est plus chaotique. L'enfant, partie intégrante de la mère, est d'abord essentiellement pour la mère une extension narcissique, un prolongement d'elle-même. S'il est vrai que la vieillesse est une suite de blessures narcissiques, l'examen du narcissisme est bien là notre sujet. Alors là, j'ai peur de faire des choses un peu compliquées, mais de faire un rappel un petit peu psychanalytique sans trop... Si je ne suis pas claire, vous me le dites. Je pense que vous ne manquerez pas de me le dire. Pour qu'on comprenne ce qui se passe dans la vieillesse et pourquoi. Il y a des personnes âgées qui sont absolument passionnantes, qui s'intéressent à tout, avec qui on a envie d'être, on ne s'ennuie pas, puis d'autres qui sont repliées sur elles et qui sont malheureusement sans intérêt. Et il faut qu'on comprenne comment ce narcissisme s'installe dans notre personnalité. Vous voyez bien que les choses, dès le départ, sont installées. Que malheureusement, en fonction de l'histoire infantile, on va être dans cette inégalité que j'évoquais. Un enfant qui naît, reconnu comme beau, comme bon, en bonne santé, qui comble ses parents, il reçoit le sens de son identité. La faculté de croire en sa valeur, d'aimer les autres et de s'aimer lui-même. En se sentant aimable, un enfant toujours reconnu comme beau et comme bon par une mère comblée, en tant que mère, en tant que femme, reçoit dans son berceau quelque chose d'inestimable. Les premières chances de sa vie et la préparation d'une bonne acceptation de son vieillissement. Je crois que vous serez à peu près d'accord avec moi, on en discutera tout à l'heure. En quelque sorte, ne pas avoir d'enfant peut préserver le mythe de l'éternelle jeunesse. On peut expliquer que c'est peut-être une idée, mais ça c'est sûrement pas la seule. Pourquoi il y a des grossesses de plus en plus tardives, la première maternité de plus en plus tardive. Bon, ça s'instaure ou ça s'inscrit dans cette augmentation de la vie. Mais bon, certaines femmes refusent de se subordonner à la loi du temps en assurant une descendance, car prendre la place dans une lignée, c'est accepter implicitement qu'on est mortel. On garde ainsi l'illusion narcissique de cette éternité de la jeunesse. Ne dit-on pas que les enfants nous poussent dans la tombe ? Je pense qu'une infection, vous avez déjà entendu. Repousser une première maternité jusqu'à sa dernière limite ou être stérile peut jouer cet office de trompe-la-mort. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au travail que j'ai fait à la maternité de l'hôpital où je suis restée 17 ans, au niveau des IVG, ces jeunes femmes, ou ces femmes un peu plus âgées, qui avortent, qui ont des IVG, interruption volontaire de grossesse, où elles annulent ainsi le temps qui est suspendu. C'est l'expression d'un conflit bien douloureux. Elles sont dans un désir de grossesse, elles vérifient ainsi soit si elles sont à la fin de la période de procréation, l'enfant qu'elles n'auront jamais, et elles vérifient ainsi leur fertilité, mais ça arrive aussi chez les jeunes. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. On peut distinguer dans le phénomène du vieillissement des modifications morphologiques qui n'ont pas de conséquences fonctionnelles, mais qui trahissent ce poids des ans. Les rides, les cheveux blancs, la difficulté de la motricité, un certain nombre de choses qui ne sont pas bien gênantes et dont on s'accommode. D'une certaine façon, on pourrait dire que notre période, notre époque, est retombée en enfance, sinon en adolescence. Le look de l'adolescent est absolument indispensable. On n'a pas le droit d'être vieux, on doit être en jean et basket. Pour avoir cette espèce de symbole de l'éternelle jeunesse. Le démon de midi qui a fait fondre dans sa fournaise tant d'alliages est désormais moins menaçant si une femme ou un homme se donne la peine de prolonger cette décennie, sinon de 2 ou de 10, l'éclat de son été conservé. Même si M. de la Palice dit que le vieillissement, hélas, est incontournable, on n'y échappe pas. Donc, nous devons accumuler les années, mais il nous est interdit de paraître vieux, sous peine d'exclusion, dans certains cas, d'un certain nombre de micro-sociétés. Si vieillesse pouvait, vous connaissez aussi. Alors, on va maintenant essayer de parler un peu du couple. Vieillir en couple. C'est aussi... Alors déjà, vivre en couple, on peut dire que c'est la chose la plus difficile qui existe. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. On attend tout de cette période, on attend tout de l'autre, et quelquefois on est fort déçu. Mais aussi parce qu'on ne s'est pas donné. Hein. Alors, dire qu'il y a un lien entre nos fragilités narcissiques et la façon dont nous abordons le vieillissement me semble aller de soi. Je dirais avec humour que les blessures narcissiques conviendraient parfaitement à notre sujet sur le couple, car les représentations de la vieillesse, même si on essaie de les relativiser, ne peuvent que blesser notre narcissisme, ou plutôt réactiver des blessures anciennes, qui ne sont pas seulement le don de quelques bonnes fées penchées sur notre berceau, mais le fruit d'un travail d'élaboration jamais achevé face aux limites du temps que nous impose cette sacrée réalité. Crises, conflits dans le couple sont souvent des messages lorsqu'on sait les écouter. Mais moi qui écoute beaucoup de couples, je sais que souvent c'est difficile. Donc c'est un travail thérapeutique, et dans mon travail d'accompagnement, j'ai de plus en plus des couples âgés qui viennent pour aménager, parce qu'ils vont vivre un certain temps ensemble, ils le désirent, mais ils ont du mal. Ils ont un peu perdu leur repère, il y a des choses qui ont changé, donc ils viennent. Quelquefois, ce n'est pas forcément une thérapie longue, mais c'est une thérapie de, je dirais, quelques mois pour réaménager la conjugalité. On pourra parler aussi de conjugopathie, terme à la mode, qui est la maladie conjugale. Alors, si l'apparition du vieillissement déclenche une crise insurmontable dans le couple constitué depuis longtemps, c'est que ces crises précédentes n'ont servi à rien, qu'elles n'ont pas été des conflits dynamisants. Un couple qui ne se dispute pas, qui ne s'engueule pas, qui n'a pas de conflit, ça n'existe pas. Le problème, c'est que ça ne soit pas trop violent, qu'il n'y ait pas les assiettes qui volent, que ce conflit soit un processus dynamique, qu'on en sorte, hein, que ce conflit soit un processus dynamique et que ça puisse être les bases solides d'un couple et qu'on écoute et qu'on entende. Il fait très chaud dans la salle, hein, je ne sais pas, vous trouvez ? Alors, rappelons que l'appareil psychique est lié à sa structure et à la qualité de nos investissements. Bien vieillir serait donc le fait d'une personne capable de continuer à investir le monde des autres, de soi, preuve d'un équilibre satisfaisant entre libido narcissique et libido d'objet. Libido narcissique, c'est quelque chose, c'est l'image de soi sur soi. Et libido d'objet, c'est tout ce qui est projeté, sublimé sur les objets intérieurs, sur tous les investissements, notre travail, notre famille, les aspects culturels, artistiques, la peinture, la musique, la culture, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Alors, c'est Freud hein, qui a, en 1914, sorti la théorie sur la libido. Alors, libido, qu'est-ce que ça veut dire ? Je le dis peut-être, n'est-ce pas nécessaire, parce que c'est sur le plan médiatique, on en parle là maintenant, mais enfin bon, on va le préciser. C'est, en latin, ça veut dire l'ensemble des envies et des désirs. C'est une énergie pulsionnelle, mais qui n'est pas utilisée que dans la sexualité. On va la sublimer, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça serait dommage. On va la sublimer ben, sur le couple, sur la famille, sur des tas de choses, sur des passions. Donc c'est une énergie psychique qui est utilisée et qui doit être déplacée sur des investissements. Donc c'est une façon... au sens propre de la sexualité, de désexualiser un certain nombre de choses pour projeter cette sublimation sur des objets passionnants, des intérêts différents. Et en fait, cette personne âgée dont je vous parlais tout à l'heure, qui est intéressante, qui est passionnante et qui vieillit bien, eh bien, c'est celle qui a su mettre sa libido et pas mettre tous ses œufs dans le même panier, qui l'a mis sur soi en s'occupant d'elle, en s'intéressant en elle, on pourrait dire en s'aimant, le narcissisme c'est s'aimer, hein, pas être fou amoureux de soi, parce que là, on entre dans quelque chose qui serait un peu disproportionné, mais avoir un certain amour de soi et un amour des autres. Alors, donc, Freud en a beaucoup parlé. Je vais peut-être vous passer tout le passage psychanalytique, parce que j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué. Donc, on dit que le vieillissement est une épreuve pour le moi. Vous savez, le moi, c'est une instance psychique importante. Et ça a des rapports aussi avec le ça et avec le surmoi. C'est toutes ces instances qui constituent notre personnalité. Donc, nous savons que toutes ces identifications tournent essentiellement autour de deux pôles dans la vie, malheureusement. Mais bon, c'est aussi intéressant. C'est la sexualité et l'activité. Mais en vieillissant, ces deux pôles perdent un peu de leur pertinence, d'où de véritables crises d'identité pour certains, au moment de la retraite, par exemple, qui est vraiment une perte d'identité professionnelle, avec des repères à retrouver, et notamment avec l'autre. J'ai des exemples dans mes thérapies de couples où monsieur essayait, après une vie professionnelle très bien remplie, de trouver une place au sein du foyer, au sein du domicile. On sait que la maison est un prolongement de nous, eh bien, c'était extrêmement difficile. Donc, je me rappelle d'un exemple clinique, sans dévoiler du tout le secret professionnel, où monsieur coupait les tranches de la baguette, ou enfin, je ne sais plus quel pain, et c'était quelque chose qui était réservé à madame. Eh bien, il se faisait attraper parce qu'il le coupait trop fin et ça allait sécher. Et donc, c'était... le pouvoir de madame était renforcé, alors on en parlera tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Et donc, cet homme retraité n'arrivait pas à trouver de place. Fort heureusement, après ça s'est arrangé, parce que c'était un couple qui avait des bases solides, un fondement solide. Donc ça s'est bien réglé, ce problème-là, avec eux. Je suis sûre que vous aurez plein de choses à dire là-dessus. Alors, le temps du corps dans le couple, c'est important. Les stigmates du vieillissement s'acceptent différemment. Les sujets très narcissiques, trop narcissiques, là, ça va leur jouer des tours. Ils vont être plus malheureux que les autres. Ils vont souffrir davantage de l'amoindrissement physique des marques du temps, de l'image du corps, on le sait, qui participe à la construction de l'identité, à la relation amoureuse, à l'érotisation dans le couple. Le refus et la dépression surviennent souvent dans ces moments-là. Le recours à la réparation, par la réparation esthétique peut tout à fait être envisagé. Mais il faut en connaître les limites, hein, parce qu'on pourra de toute façon, quand on aura un certain âge, pas avoir l'âge d'une minette ou d'un minet, même si on a le jean et les baskets. Ça ne sera pas possible. Mais bon, si véritablement on souhaite faire enlever des poches sous les yeux, un truc comme ça, recours à la chirurgie esthétique, pas de problème. On pourrait dire, alors les auteurs, l'ensemble des psys, des sociologues, ont comparé cette période de la vieillesse à l'adolescence, avec un délire un peu dysmorphophobique. Vous savez, l'adolescent, il a un corps qu'il ne reconnaît plus comme le sien. Il tend le bras pour attraper un verre, il n'a pas vu que son bras avait grandi, renverse son verre. La personne âgée est un peu comme ça. Elle envahit les miroirs ou elle refuse de les voir parce que c'est intolérable ou insoutenable. On sait que, il y a comme ça des choses qui sont très difficiles. Par exemple, il y a un certain nombre d'incidents de maladies. L'hystérectomie, qui est une amputation difficile pour les femmes, l'utérus jouant le rôle déterminant dans la symbolique féminine, un certain nombre de femmes qui ont des soucis de santé, l'ablation d'un sein, l'hystérectomie, ça va se traduire par une dépression post-chirurgicale qui se traduit par un refus des relations sexuelles. Ça va être fort dommage parce que c'est tout de même une chose que l'on fait qui doit être agréable si on la fait autant que faire, tant que possible. Donc tous ces aspects et tous ces avatars qui arrivent au moment de la vieillesse sont à prendre en compte. Et malheureusement, souvent, le corps médical n'est pas souvent attentif à ça. C'est un peu ce qu'on peut dire. Alors, nombre de gens commencent à sentir... vous voyez que moi, j'ai mis les lunettes pour vous parler. La presbytie m'a gagné aussi. Donc, la perte de l'acuité visuelle, d'un certain nombre de petits soucis, contribue au repli et à l'isolement. Alors si déjà on vit seul, c'est déjà très pénible. La compréhension du partenaire, l'entourage, la manifestation des sentiments amoureux de l'entourage prennent alors une importance capitale. Elle est décisive pour la reconstitution et l'acceptation de l'image corporelle. Bien évidemment, si on vieillit seul, si les enfants nous ont tourné le dos, ne donnent pas signe de vie, ou alors une fois tous les quatre matins, cette solitude est imposée et n'est pas choisie, les stigmates du vieillissement vont être encore beaucoup plus pénibles. La démence sénile, par exemple, tous ces petits aspects. Alors, sous démence sénile, on a l'habitude de mettre l'Alzheimer, tous les petits troubles. Hein. C'est un processus d'atrophie cérébrale qui entraîne une régression instinctivo-affective où l'impulsion dominante entraîne les gens dans une dépression, un isolement. Et ça peut se retourner, cette chose-là, s'il n'y a pas une activité sexuelle satisfaisante, s'il y a des pulsions sexuelles, ça peut se retourner en forme de perversion, sous forme de voyeurisme, d'exhibitionnisme, de personnes âgées sadiques, insupportables. Tati Daniel, vous vous en rappelez ? Bon, voilà. Alors donc, c'est une épreuve qui est dans le couple, différente selon le couple. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que je peux tout de même me répéter. On vieillit comme on a vécu. Eh bien, dans le couple est comme il était au début. S'il y a une harmonie conjugale, il y aura un couple vieillissant de qualité. C'est évident. C'est un ensemble d'interactions qui vont exister au moment de la vieillesse entre le corps et le psychisme, soma et psyché, où toutes nos fragilités vont être réveillées et notre narcissisme va mettre en place des blessures anciennes et irréversibles. Le vieillissement s'opère dès la naissance, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, jusqu'à la mort. Mais la mort, on ne le dit jamais. On essaye de ne pas y penser. En lisant des articles, je lisais quelque chose qui m'interrogeait par rapport à ce que vous affichiez sur le tableau. Actuellement, on est plutôt dans le style de dire oh ben, il est vite parti, il n'a pas souffert, hein, quand on veut aborder la mort. Donc il y a une espèce d'escamotage du processus, du deuil, de tout ce qui va avec la mort. Les anciens étaient plus sages, ils disaient souvent il s'est préparé, il était prêt, nous en avons parlé. Je dis ça parce que ça rejoint tout à fait le travail que vous faites. Un enfant qui change, qui grandit, hein, dans sa croissance, quand on est dans cette courbe ascendante, eh bien, tout est positif. Alors, on ne parle pas de vieillissement, ce n'est pas du tout le même langage. Mais quand on est dans la courbe descendante, on n'y trouve pas du tout son compte. On n'est plus du tout admiratif. C'est une souffrance, une véritable souffrance. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, quand les gens disent oh, « elle a pris un coup de vieux » ou « alors qu'est-ce qu'elle a changé, elle a vieilli », bon, c'est pas du tout agréable, même si... puis en plus, ça se sait toujours, parce que c'est l'utilisation de la communication par un tiers. On ne dit pas à la personne en question, on communique toujours par un tiers. Mm-hmm. C'est un peu pervers, mais ça existe. Hein. C'est des choses que moi, je travaille dans mes thérapies, quand on communique par un tiers. Alors, on le sait tout le temps. Oh, elle a dit que j'avais vieilli. Ah ! Pas agréable. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en est, on ne peut pas échapper à cela, même si notre espérance de vie augmente. Comme je disais, d'un trimestre par an, je vous assure que c'est vrai. C'est bien. Il y a de plus en plus de centenaires, hein, dans certaines régions. Bon, mais c'est plutôt agréable, dans de bonnes conditions, je vous l'accorde. Parce que, bon, il faut bien dire que ces chiffres vont augmenter. Ça ne sera plus un trimestre par an. Hein. On ne le sait pas. Alors, on nous fait aussi beaucoup rêver par toutes les découvertes. Hein. J'entendais l'autre jour Émile Beaulieu qui avait fait le RE 400. Oui, c'est ça. Hein,
c'est Émile Beaulieu.
Qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai reçu à Poitiers il y a quelques années dans le cadre de mon travail à l'hôpital sur le RE 486 qui était une pilule abortive. Il avait. J'étais avec un autre médecin qui était la même année de médecine que lui, donc à un an ou deux près. Il était, mais teigneux, en me disant, bon, il a l'air d'un jeune homme fringant, il avait à peu près 70 ans. Je l'ai vu il y a quelques jours à la télé, je l'ai trouvé magnifique. Bon, il prend de la DHEA, hein, alors je ne sais pas si ça fait de l'effet ou pas, mais bon. Enfin, bon, la science nous apporte beaucoup de recherches, nous fait rêver. Tout est possible, à n'importe quel âge. On a entendu parler de la grossesse à 60 ans. Bon, il ne faut pas rêver non plus, hein. Pas quand même, faire des enfants, il y a un âge pour tout. Soyons raisonnables. Alors, on va simplement dire que le vieillissement est un travail de deuil. Difficile, d'adaptation. Le deuil, d'avoir une peau fraîche, de être obligé de porter des lunettes, de ne pas se lever comme une jeune fille quand on sort de son fauteuil ou de sa banquette, enfin, tout un tas de choses, pas faire les mêmes sports qu'on faisait avant, d'aménager tout ça. Mais ce travail de deuil est tout à fait possible si le psychisme est de bonne qualité. Et il n'y a pas d'âge pour revoir tout ce qui ne va pas dans notre psychisme. Hein. C'est bien évidemment pas moi qui vous dirai le contraire, puisque ça fait partie de mon travail. Le vieillissement réactive donc des carences, des failles, selon la richesse ou la pauvreté de notre personnalité, eh bien, ça va bien ou mal se passer. C'est d'abord une épreuve individuelle avant d'être une épreuve au niveau du couple. Hein, dans une image qui se modifie, où on réagit différemment, on se regarde, comme je disais tout à l'heure, dans le miroir, comme l'adolescent qui a absolument besoin de se reconnaître et qui passe son temps dans le miroir. On s'interroge, on se demande. Soit c'est un refus total de vieillir, on fait un déni, alors on se déguise en ado, hein, on laisse ses baskets avec les lacets pas fermés, on se met en jean, enfin bon. L'illusion, elle est éphémère, il me semble. Soit on est dans l'angoisse du vieillissement qui peut entraîner des petites dépressions qui sont difficilement repérables, mais où, quand on voit les gens, quand on entend les individus et qu'on ne les sent pas bien dans leur existence, on peut se dire qu'ils sont véritablement dans une dépression. Et là, peut-être qu'il faut traiter. Alors là, il faut passer le relais au corps médical. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore de passionnant à vous dire ? Alors, donc, on va parler un peu du couple, si vous voulez. Puis après, on parlera de la sexualité, parce que c'est tout à fait intéressant. Hein. Alors, bien sûr, selon la notion de couple, le choix du partenaire, vous savez bien, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, au risque d'entamer un brin de romantisme, le choix du partenaire n'est pas un hasard. On choisit en fonction de son psychisme, par rapport à une dimension attractive et complémentaire de notre personnalité. Et si les fondamentaux du couple, les bases, les liens, l'organisation conjugale, cette dyade homme-femme est de bonne qualité, eh bien, les processus de vieillissement, à condition qu'il n'y ait pas d'avatar, de maladie, vont à peu près s'opérer et puis tranquillement, on va, si on jouit de bonne santé, faire un certain nombre de choses tout à fait passionnantes, s'intéresser aux autres, voyager, lire, enfin toutes ces choses que l'on ne pouvait pas faire quand on était dans la vie active. On peut s'épauler au niveau du couple, se soutenir, s'accompagner. Maintenant, quand il y a des difficultés au niveau, par exemple, de maladies, de processus invalidants comme des maladies physiques, la haine peut s'installer, l'autre devient insupportable, il nous empêche de faire ce qu'on veut, on ne peut plus le supporter. Alors donc là on entre dans ce qu'on appelle la castration, le manque, l'incapacité à vivre une vie active à cause de l'autre, c'est difficile. On voit aussi des structures qui ne sont pas forcément toujours au point pour se faire aider, se faire accompagner, être déchargé quand on a quelque chose comme ça à soutenir. On fait le bilan de la vie, de nos attentes, de nos réalisations, des déceptions, bien évidemment, des rancœurs, des frustrations, tout ce qui n'a pas été fait, qu'on n'a pas eu le temps de faire ou qu'on n'a pas osé faire. George Sand disait, en écrivant à 64 ans, « C'est excellent que d'être vieux, on y voit enfin les choses dans leur vérité. » La solitude, seule ou dans le couple, parce qu'on peut être seul dans le couple, hein, quand l'autre n'est plus capable de participer, c'est quelque chose qui réactive, peut-être chez certains individus qui ont eu ces avatars de l'histoire infantile. Il y a un psychanalyste anglais, Winnicott, qui a beaucoup écrit là-dessus et qui dit « C'est la capacité d'être seul, en parlant du petit enfant, avec la mère, pour le bébé, en sa présence ou loin d'elle, dans la chambre à côté, où il peut jouer sans angoisse. » C'est un peu pareil dans le couple. Cette capacité à être seul est plus ou moins grande avec la solitude. Si l'autre est moins présent, s'il n'est plus aussi attentif, s'il n'est plus aussi galant, s'il ne pense plus aussi à un certain nombre de choses, cette solitude, elle est nécessaire à l'être humain de temps en temps, mais si elle est mal supportée, elle est absolument insupportable. C'est un isolement dans un sentiment de détresse qui réactive les angoisses d'abandon. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à être abandonné. Hein. Dès qu'on naît, on quitte l'utérus, on vit quelque chose de douloureux, on est dans les bras de la mère. Puis dès qu'elle nous abandonne, dans le berceau, ben on est abandonné. Mais si on a une mère cajolante, aimante, caressante, qui nous parle, qui nous caresse, tout se passe bien. Et cette angoisse d'abandon, ben on la négocie. Mais si elle a été mal négociée par des enfants qui ont vécu des séparations, dans des familles d'accueil, dans des structures, eh bien, dans la vieillesse, on va le vivre encore plus mal. Donc, vous voyez que tout se retrouve. Alors, on peut aussi être grand-parent. C'est quelque chose qui est merveilleux. Ou on refuse d'être grand-parent, parce que c'est pas bien. Ça marque un âge. On peut être des grands-parents tout à fait aimants. C'est un statut difficile. On peut être des grands-parents aimants, disponibles, attentifs, attentionné, mais avec peut-être trop d'autorité sur le jeune couple de nos enfants, et on va être dans cette histoire transgénérationnelle, être encombrant, ou encombrer nos enfants, et donc nos petits-enfants. Donc c'est un statut difficile. Alors pour les femmes aussi, qui n'ont pas travaillé, qui se retrouvent, qui ont un statut social, même si elles sont autonomes, elles n'ont pas vécu ce passage de la retraite, mais elles se retrouvent avec un conjoint qui est à la retraite. Elles ont été des femmes qui ont eu un certain statut de femmes désirantes, elles le sont moins, de femmes qui se reproduisent avec la procréation, elles le sont moins. Donc elles ont tendance, dans le couple, à majorer un rôle de pouvoir. C'est exactement l'exemple clinique que je vous donnais tout à l'heure, hein. J'ai d'autres idées là, de patients qui, au moment où ils partent, ils chargent la voiture. Ben, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça. Alors bon, il faut se mettre d'accord. Donc ces femmes, un certain nombre de femmes de notre génération, voire un peu plus âgées, ne sont pas autonomes, elles ne conduisent pas. Donc elles vont peut-être avoir la tentation d'être plus possessives, d'être dominantes, alors qu'elles n'ont jamais été. Parce qu'elles ont été le gardien de la maison, elles ont géré ce prolongement narcissique qui est la maison aussi, hein, c'est un prolongement de nous-mêmes. Elles ont géré ça toute leur vie et elles ne vont pas supporter l'intervention du conjoint qui veut aussi participer. Donc, ce n'est pas sans poser des problèmes, il faut réaménager les positions, les rôles, les identités, hein, une identité au sein du couple. Alors, bien évidemment, hein, on vieillit comme on a vécu, on sera en couple comme on a été, à l'image du couple, hein, de ce qu'il a été étant jeune, de l'harmonie conjugale qui a été présente, qui se retrouvera en vieillissant. Selon le choix du partenaire, et si ce n'est pas trop névrotique, ça veut dire pas trop compliqué, s'il n'y a pas trop de querelles, hein, de prise de position, de recherche identitaire dans le couple, qui je suis, qui tu es, qui commande, qui dit quoi, comment on fait. Bon, vous rappelez le film, je ne me rappelais plus bien des acteurs, mais Le Chat, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un film horrible. Hein. Oh, horrible. Simone Signoret, puis alors c'est
et
le...
Et Jean Gabin.
Jean Gabin, voilà, c'est lui, parce que j'avais marqué mon temps, mais je savais bien que ce n'était pas lui, mais je ne me rappelais plus. Bon, alors... S'il y a présence de tendresse, de complicité, d'érotisation, de gentillesse, de lien fondateur du couple, si ce couple s'est fondé, par exemple, sur le choix de la profession, sur des loisirs, des passions, quelque chose qui les a extrêmement motivés, ben, ces conflits dynamiques, ils vont peut-être exister dans la vieillesse, mais ils se régleront assez facilement. Si... La sexualité existe, elle est différente, mais ce sera aussi quelque chose, hein, d'une forme d'expression de son identité. Donc, le problème, c'est que souvent dans le couple du troisième et quatrième âge, il y a beaucoup moins de projets, pour ne pas dire plus du tout au niveau du couple. On n'a plus à construire de maison, on n'a plus de... Bon, et ça, il faut trouver des projets. Moi, l'autre jour, j'ai croisé un couple âgé. Eh bien, ils font construire, ils dessinent des plans. Mais j'étais émue, j'avais une émotion extraordinaire. Je me disais, c'est bien, c'est fabuleux. Et alors, ils n'hésitent pas. Bon, ils ont pris un certain nombre de précautions, 70 ans, et ils font une dernière fois leur maison. Je trouvais ça fabuleux. Alors, donc, s'il y a tout ça, ben, il y a alliance dans le couple. Il y a partage, il y a complicité, il y a échange, il y a rigolade, il y a... cet aspect ludique qui, pourquoi, continuerait pas à exister, hein, de s'amuser, de se dire des choses rigolotes. Alors, bon, s'il n'y a pas trop d'avatar du vieillissement, ça doit pouvoir exister, hein, et on doit pouvoir régler tout cela. Alors, ce qui est bien évidemment un peu ennuyeux, hein, et qui est pas... on pourrait dire que notre société fait le déni du vieillissement. Parce que les structures d'accueil ne sont pas aussi importantes. Moi, je sais que depuis 30 ans à la fac, on nous parle de la pyramide des âges. On le sait. Ce n'est pas une nouveauté. On n'a pas inventé ça depuis 5 ans. Eh bien, on n'en tient pas compte. Et donc, devant une population... Alors, je ne sais plus en quelle année, j'ai zappé l'année. C'est pour ça que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais on va être inactif pour une personne âgée. Je ne sais pas dans combien de temps, mais pas très loin, hein. Bon, on le sait, ça, on le savait, mais on n'a rien fait. On a ignoré notre gouvernement, nos politiques ont ignoré et ont fait le déni du vieillissement, mais très certainement parce que ça les dérange, comme nous, ça nous dérange. Alors, qu'attend-on pour faire bouger les choses? Alors, on va parler un peu de la sexualité, puis après, on fera un échange avec la salle, hein. La sexualité après la cinquantaine, et voire bien plus, eh bien, ça existe. Et puis, ça doit continuer à exister, pas dans la même présentation, dans la même performance, bien évidemment, hein. D'ailleurs, la médecine s'y est intéressée, parce qu'on a sorti, après le Viagra, on a sorti le Viagra, et on a sorti tout un tas de stimulants érectiles qui se mettent sous la langue et qui stimulent pour avoir une érection, pour qu'il y ait des jeux amoureux, pour qu'il y ait un échange, pour qu'on puisse avoir, hein, cette sexualité, hein, qui, comme dit un de mes amis sexologues, qui est une chose qui s'use et qui s'oublie si on ne s'en sert pas, comme toutes les autres fonctions du reste. On en perd l'intérêt, on en perd le goût. On pourrait dire que c'est un peu l'écho du refoulé oedipien, qui voudrait que les parents n'ont jamais fait l'amour, ils sont asexués. Vous demandez à vos enfants, moi quand je demande... à des enfants, à des adultes qui viennent pour des problèmes sexuels, qu'avez-vous vécu de vos parents? Est-ce que vous les avez surpris dans des situations attendrissantes, des bisous, des choses? Ben non, ils ne font pas l'amour, ils n'ont jamais fait. Et vous êtes né comment? Alors, c'est inconvenant, c'est indécent, hein, de faire l'amour à un certain âge. Ben, pas du tout, ça existe. La preuve, c'est qu'il y a un certain nombre d'établissements, de maisons, hein, de retraites qui ont prévu cela. Et il y a des mariages, il y a des flirts, et il y a tout un tas de choses qui sont merveilleuses. Voilà. Donc, chacun de nous doit ne pas ignorer cela en nous. Et dans le registre du fantasme, la vie onérique existe à n'importe quel âge. Même si on ne peut plus. Eh bien, et alors, il ne faut pas que ces fantasmes et cette vie onérique se transforment en ce que je disais tout à l'heure, des choses perverses, hein, exhibitionnisme, sadisme. Bon, pour que cette sexualité existe et qu'elle soit satisfaisante. J'ai d'autres choses à vous dire sur la sexualité. Si elle a toujours été maintenue, cette vie affective et sexuelle, elle a, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne se maintienne pas. Cette mémoire corporelle, on ne s'en sépare pas. Alors, on peut vivre hein, sur des souvenirs merveilleux, mais bon, si on continue à tendre et à tensionner, le corps parle et la parole aussi agit. Et on évite ainsi le repli narcissique qui réactive ces fameuses blessures narcissiques dont je vous parlais, qui sont imposées par le temps et qui fait que la sexualité redonne du baume au cœur. En conclusion, je peux conclure ? Est-ce que ça... Bon ?
C'est bien.
C'est bon ? Hein ? Alors, je dirais en conclusion que si le travail du temps implique un ensemble de renoncements narcissiques, désir infantile d'être tout, comme le petit, comme l'enfant, hein, tout le temps, de disposer de l'objet d'amour qui est sa mère, dans le couple adulte qui est l'autre, l'objet d'amour, hein, c'est sans limite. On vieillit comme on a vécu, je ne cesserai de vous le répéter parce que c'est tellement important. Alors, le vieillissement intègre des expériences précédentes, mais exige une nouvelle adaptation au milieu en tenant compte des déficits, mais dans bien des cas avec le bénéfice d'une pondération, du jugement et d'une appréciation qui est plus réaliste, on vieillit bien. Il y a ce vieil adage qui dit qu'on se bonifie avec l'âge, qui n'est pas forcément toujours vrai. J'avais...
Ça, c'est pas toujours vrai.
Cette métamorphose, qui est le vieillissement, quand elle se vit mal, entraîne des réactions, des révoltes, des troubles de l'humeur, de l'hypocondrie, des dépressions, des états dépressifs jusqu'au suicide. Hein, des isolements, on ne veut plus voir personne, on ne veut plus participer à rien, on ne s'intéresse à rien. Toutes ces pulsions libidinales transformées en sublimation n'existent plus. On devient avare, on devient méfiant, on fait des rituels. Vous voyez, c'est pas très drôle tout ça. Mais bon, il faut pas que ça arrive. Donc, si le sujet âgé dispose d'une certaine souplesse psychique, les pulsions sexuelles érotiques et la sublimation vont aller vers la tendresse, la créativité, mesurer le sens de la vie, communiquer son expérience aux jeunes classes, permet de conserver une identité. Freud a été génial après 40 ans, hein, et puis il a, jusqu'à plus de 80 ans, été tout à fait productif. Pour Dolto, chaque renoncement ouvre sur des nouveaux investissements. Pour Simone de Beauvoir et Sartre, il se produit à la fois un rétrécissement et un dépassement. Le dépassement, c'est l'œuvre et non pas l'homme. C'est aussi vivre en bonne compréhension avec soi-même. Je crois que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Mais ça, c'est valable à tout âge. Le vieillissement ne serait pas si redoutable s'il n'y avait pas la présence de la mort qui a tendance à transformer les vieillards en morts en sursis. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, alors maintenant, je souhaite échanger avec vous.
Alors, effectivement, c'est peut-être pas facile de poser comme ça une question en vous levant. On a prévu de... Oui, alors, effectivement, merci pour le micro. Et puis, on a prévu des papiers, si vous voulez, si vous préférez, écrire vos questions.
Vous avez le droit de dire des bêtises, hein. C'est vrai que c'est un sujet un peu angoissant, mais j'espère que je ne l'ai pas trop noirci. Faut pas que vous repartiez avec le poids des années sur les épaules et que vous trouviez cela difficile.
Ce dont on n'a pas parlé, en vieillissant, on voit disparaître des personnes qu'on aime autour de soi, nos voisins, nos amis, quelqu'un de notre famille, parfois nos enfants ou nos petits-enfants. Enfin, ce sont des deuils douloureux qui viennent à nouveau s'ajouter et qui entraînent souvent des états dépressifs. Si les personnes ne sont pas aidées ou n'ont pas la chance d'être entourées.
Alors, personne n'est épargné. Hein. Certaines personnes, plus tard que d'autres, par des décès, des disparitions de notre propre entourage. Bon, on souhaite que ça arrive le plus tard possible, bien évidemment. Mais c'est effectivement, comme dit Annie, quelque chose qui est difficile parce que ça va, bien évidemment, compliquer tout ce travail psychique que j'évoquais, hein. Et c'est l'importance d'être entouré, accompagné, pour ne pas sombrer dans plus que le deuil, parce que quand le deuil ne se fait pas, la psychanalyse dit que ça se transforme en mélancolie, et donc là, après, on va psychiatriser la chose, parce que vraiment c'est nécessaire, parce que quand les gens s'effondrent, il y a une période de deuil qui est tout à fait normale, légitime, hein, qui est difficile, où on n'a envie de voir personne, où on se pose des questions, où on n'a peut-être pas envie de continuer. Mais bon, une différence entre le processus de deuil et ce travail qu'on va faire par rapport à la distance qu'on va prendre avec l'être aimé, où le manque va petit à petit être de moins en moins important, mais existera toujours, mais où on arrivera à retourner cette dimension libidinale, cette libido, à cette énergie pulsionnelle que j'évoquais tout à l'heure, sur soi-même et sur les autres, heureusement. Et c'est là qu'il ne faut pas hésiter quand on voit que ça ne se passe pas bien et que ça bascule dans la mélancolie, pour vraiment soutenir et accompagner tous les gens qui ne vont pas bien. Un micro.
C'est vous ? Oui, c'est. Oui, pour ma part, je trouve assez dramatique la situation de couple âgé où l'un des partenaires va mal, sombre dans cette espèce de laisser-aller psychologique, et enfin, où vraiment il n'y a plus cet ancrage dans la vie réelle. Et quand l'autre se trouve encore très en forme, très alerte et tout à fait bien intellectuellement, il y a un isolement terrible qui s'accomplit, et parfois, on ressent même de la part de celui qui est bien une agressivité qui peut parfois, chez des couples relativement âgés, revêtir une forme de maltraitance bien involontaire. Donc, assister à ça, c'est difficile quand on est concerné dans sa famille et on se sent le devoir de faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas comment leur parler à ce sujet-là. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre.
Ah si, je crois que vous avez, je crois que nous sommes d'accord, hein, vous avez tout à fait raison. On peut voir la maltraitance, enfin dans les pulsions sadiques, hein, à l'égard de celui qui ne peut plus, qui est frappé par une maladie et qui ne peut plus partager la vie du bien portant. Et alors que faire ? On a tous vu, peut-être dans nos familles, hein, des conjoints un petit peu agacés qui embêtaient au niveau du régime. « Oh, tu ne vas pas prendre ça. Non, tu n'as pas droit au vin. » Alors, qu'est-ce que ça peut faire un petit verre de vin en dînant, en déjeunant. Mais moi, j'ai vu ça dans ma famille. Bon, ça m'exaspérait. Donc, que faire ? Je crois qu'il faudrait qu'il y ait des groupes de parole. D'abord, parce que celui qui est bien portant, qui est valide, et qui est face à celui qui est invalide, il ne peut pas avoir la même vie. Donc, c'est la castration dont je parlais tout à l'heure. Et je crois que, moi, ce à quoi je pense, c'est un groupe de parole pour déculpabiliser, parce que vraiment, toutes les pulsions sadiques qu'on peut avoir à l'égard de celui qui est malade et qui a besoin hein, de soins, où on ne met pas dans une structure, on s'en occupe, ce qui est à la fois d'une très grande générosité d'être dévoué à ce point, mais ce qui est à la fois tellement invalidant que la personne valide n'a plus de vie, ne peut plus rien faire. Et donc, ça déclenche l'agressivité, hein, moi, ce que j'appelle mes pulsions sadiques, mais c'est exactement la même chose. Donc, bon, il faut que ça se, faut que ça puisse se dire quelque part, dans un lieu, avec des gens dont c'est le métier, d'écouter et d'accompagner, parce que ça peut permettre d'aider.
C'est pas facile à gérer quand les personnes sont au domicile.
Ouais.
Et n'ont pas beaucoup de contacts.
Alors, après, on touche aux gens qui sont isolés, qui sont pas dans des... ou pas dans des grandes villes où il existe bon, des choses comme ça. Hein. Mais moi, je pense que comme dans l'accompagnement au divorce, par exemple, ou à des choses comme ça, on pourrait faire des groupes de parole. Ou comme ça se fait chez les alcooliques anonymes. Oui, bon, on peut... je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas de remède et de solution miracle, hein, mais c'est vraiment très difficile à vivre. Alors, en dehors de toute l'aide, de l'accompagnement et du soulagement qu'on peut amener, en libérant un peu la personne valide, hein, mais bon, on sait comment ça se passe.
Est-ce que nos infirmières qui travaillent en gériatrie ont des réponses, enfin, ont ce questionnement, justement, par rapport à des hommes ou des femmes qui vous parlent, qui vous témoignent de leur malaise ou de leur... Prends le micro, Marie-Hélène.
Oui, le groupe de parole, ça me semble difficilement réalisable, d'abord pour les personnes qui sont isolées, et puis c'est pas forcément une façon de penser pour les personnes d'une certaine génération. Voilà, je pense que aider les aidants, par contre, ça c'est très intéressant, c'est une piste intéressante pour qu'ils puissent avoir ou des loisirs ou des discussions intéressantes. C'est plutôt, à mon avis, ce qui peut être mis en place. Bon, les groupes de parole sont peut-être intéressants, mais je trouve que c'est, voyez, pas forcément réalisable.
Je pense que peut-être il faudrait le présenter sous une autre forme, hein, comme on peut dans...
Une activité
ou autour d'une tasse de thé ou d'un tilleul ou de, je ne sais pas, écouter un peu les plaintes, la douleur, la souffrance des gens valides et qui sont... plonger subitement dans un cheminement qui est d'une frustration épouvantable. Alors, bon, moi, je l'ai dit avec mes mots, sous ma forme à moi, mais bon, ça existe. Hein, dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, on réunit les conjoints pour les faire... ils parlent entre eux.
Oui, non, mais...
Est-ce que mes copines psychologues qui sont dans la salle ont des idées?
Se mettre en place,
hein, de toute façon.
Je vais mettre
mes lunettes.
C'est à créer, ça. Hein.
Je sais pas, hein, c'est bon.
Je pense qu'il y a le problème aussi, c'est que l'aidant, très souvent, est persuadé d'avoir raison.
Ah oui, ça c'est important.
Il n'y a pas moyen de lui faire comprendre autre chose, quoi.
Oui, voilà.
Tout à fait.
Prenez le micro. Oui. Si, mais tout le monde n'a pas entendu. Répétez ce que vous venez de dire, c'est important. C'est important.
Je voulais dire que chacun restait sur des positions un peu rigides, d'où l'intérêt de faire intervenir des tiers extérieurs à la famille qui vont venir dépassionner et restituer chacun, réhabiliter chacun à sa propre place. Alors, ça peut être un groupe de parole, mais ça peut être un tiers, simplement.
Un soignant qui vient,
oui,
tout à fait.
Tout à fait. Ben, c'est là, je prends la parole pour vous remercier d'avoir utilisé cette expression tiers, parce que les bénévoles, quand elles accompagnent, elles sont effectivement tiers, dans la mesure où elles n'ont pas une relation affective avec la personne qu'elles accompagnent ou qu'elles rencontrent, et puis elles n'ont pas une relation de soignant non plus. Donc en fait, c'est intéressant d'avoir cette distance qui permet dans la confidentialité, bien évidemment, où la personne peut dire ce qu'elle a envie même des choses inavouables, quoi.
Oui, de recentrer toute la de recentrer chacun d'entre eux sur leur propre dimension humaine au fond.
Oui, voilà.
Ils ne se barrent pas dans des affects qui deviennent inélaborables.
Puis vous savez, dans le dire à quelqu'un d'autre qui est ce tiers, hein, y a déjà une distance qui se prend. Donc l'agressivité automatiquement sera moindre. Ça peut être lourd pour quelqu'un qui soutient, accompagne un partenaire qui a été, ou une partenaire qui a été un objet d'amour, une passion. Et le fait qu'on puisse, par se dire son ras-le-bol, ses difficultés, on met tout de suite une distance psychique, c'est bien.
Comment amener ce tiers, enfin bon,
comment l'introduire?
Oui, comment l'introduire, enfin.
Alors, souvent, à travers la maladie, il y a beaucoup de consultations, il y a une prise en charge médicale qui est importante, qui est souvent très lourde, et les gens sont amenés à rencontrer des associations.
Oui.
Hein. Donc ça peut se faire comme ça. C'est le bouche à oreille aussi par des amis qui peuvent dire des choses. Tu devrais, etc., etc. Tu vois, il y a ça. Il n'y a rien de... Oui, le médecin, vous disiez le généraliste, je crois que c'est celui qui est bien évidemment souvent le plus présent, qui connaît bien la famille, qui voit quand il y a un ras-le-bol et que il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Donc, c'est vrai que ce sont des moyens qui... sont pas tout à fait structurés, je vous l'accorde. Mais il va falloir qu'on y travaille, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, à ce processus de vieillissement. Et ses avatars.
Pour répondre un
même,
petit peu...
Même nos politiques font le déni. Ils commencent à se bouger un petit peu, hein.
Pour répondre un petit peu à l'interrogation de la dame sur le... Alors, je suis assistante sociale à l'hôpital. Oui. À la Milletrie, et le département de la Vienne, enfin dans tous les départements ça existe, hein, dans le département de la Vienne, il y a ce qu'on appelle les réseaux gérontologiques.
Ouais.
Et alors, normalement tout le département a un maillage, et pour les gens qui habitent Poitiers, le réseau gérontologique Ville-Hôpital a recruté, alors je n'ai pas le temps précis, mais un psychologue, et je pense que ce psychologue... dans le cadre d'un couple qui est suivi par le réseau gérontologique, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose, une prise en charge possible dans ce cadre-là par le biais d'un réseau gérontologique. Il y a le réseau gérontologique de Vivonne qui a aussi un temps de psychologue. Enfin, voilà, ça, Montmorillon aussi. Enfin, il y a des secteurs géographiques. Ouais, il faut que les gens se rapprochent des réseaux gérontologiques qui peuvent peut-être avoir une réponse.
Tout à fait. Merci, Catherine.
C'est bien, C'est satisfaisant de savoir que on peut trouver des tiers.
En tant qu'aide soignante, je suis aide soignante en maison de retraite, petite structure, et on est confronté à la relation parent.
Donc en tant qu'aide soignante en maison de retraite, petite structure, on est confronté à la relation parent-veuf enfant. Et j'ai un exemple en tête où le papa garde la mainmise sur ses 5 enfants. Les 3 premiers sont terrorisés. La dernière, c'est la chouchoute. Et le 4e, il fait tampon entre tout le monde. Et il est en train, excusez-moi l'expression, de péter les plombs, ce 4e. Mmh. Et l'autre jour, j'ai été obligée d'intervenir auprès de ce 4e pour lui dire, mais écoutez, arrêtez d'appeler votre papa pour lui dire des choses qui le mettent dans un état de peur et d'anxiété. Nous, on est obligés de le gérer au quotidien. Et vous, en voulant bien faire... Vous perturbez. Et il me dit, oui, mais j'ai peur qu'il m'engueule.
voyez comment... Et là, c'est un papa vieillir avec les enfants. Et c'est terrible de... Et nous, il y a des fois, on est démunis face à ça, parce qu'on ne veut pas non plus trop s'investir. Mais on doit aussi faire tampon pour que la vie de tout le monde soit le meilleur possible.
Ben, c'est la position patriarcale que j'évoquais tout à l'heure. Hein, en plus, qui possède les biens, qui a... tout le patrimoine qu'il n'a pas donné encore et qui, alors là, on entre, tel que vous l'évoquez, dans une dimension peut-être un petit peu psychopathologique d'une famille qui dysfonctionne et avec, il est veuf, vous disiez, hein ?
Depuis peu, enfin, ça fait un an et demi.
Alors peut-être en plus qu'il utilise consciemment ou inconsciemment cet aspect-là, hein, pour, contrôler, maîtriser ses enfants. Et avoir cette espèce d'emprise. On pourrait dire que c'est une forme de relation d'emprise qui ne va pas vers l'épanouissement des enfants, hein, parce que visiblement, ils sont terrorisés. Mais bon, là, on pourrait faire une thérapie, mais bon, ça, ils ne sont pas demandeurs. Et puis, oh, vous savez, moi, je suis étonnée parce que avec les films où il y a une vulgarisation des psys, des psychothérapies, des conseillers conjugaux que je suis, les gens vont plus facilement. Hein. Moi, j'ai remarqué que il y avait de plus en plus une facilité à consulter. Parce que ça lui donne un statut de pouvoir par rapport à toute la fratrie. Je crois que c'est, ça me semble. Alors comment l'utilise-t-on au quotidien quand c'est la génération patriarcale qui possède les maisons, les machins, les trucs, comment on s'en sert ? Pas forcément toujours très bien. Heureusement, dans beaucoup de familles, ça se passe bien. Mais c'est une situation tellement extraordinaire de rencontrer, par rapport à l'espérance de vie qui a augmenté, toutes ces générations qui vivent ensemble, pas forcément sous le même toit, hein, parce que maintenant c'est plus le cas, mais dans la même vie, dans la même histoire. Donc c'est tout à fait intéressant. On n'a jamais vu ça. On commence à l'écrire, on commence à faire des observations cliniques sur ce mode de fonctionnement de plusieurs générations. Est-ce que ça correspond un peu à ce que... Ce que vous cherchiez ou ça vous interroge ? Pourquoi je mets les biens en avant ? Alors, il y a des familles où les biens ne sont pas un outil où on n'utilise pas ça en permanence pour manipuler, mais il y a vraiment des familles où ça se fait.
Oui, s'il vous plaît. Concernant la maladie d'Alzheimer qui fait des ravages un peu partout, n'y a-t-il pas... à partir de la fin d'activité, disons, professionnelle, autrement dit, le début de la retraite, une méthode, sans parler de méthode ou de recette, mais simplement un moyen qui consiste à rester actif d'une façon ou d'une autre, j'entends activité physique, activité intellectuelle, et voire associative, autrement dit, de tout faire, sauf de rester enfermé chez soi.
Absolument.
Mais est-ce que c'est vraiment une méthode qui peut être applicable au plus grand nombre, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions qui pourraient apparaître, plutôt que la télévision ou le journal au quotidien, quoi.
Alors, c'est une méthode qui nous a...
C'est ça.
Hein, c'est vraiment tout à fait... Vous avez tout à fait raison. C'est une méthode tout à fait préconisée par les gériatres. Je ne me rappelle plus du nom du gériatre qui a... La dernière conférence qu'on a fait dans mon groupe de travail de sexologues avec qui on a monté un groupe d'équipe pluridisciplinaire et on a eu un agrégé du CHU dont je ne me rappelle plus le nom, un jeune, passionnant.
Comment ?
Ça doit être lui.
Oui, professeur Takela.
Et c'est tout à fait ce qu'il disait. Et il évoque. Alors, il disait stimuler, s'investir, être toujours dans la curiosité de tout ce qui se passe, lire, marcher, nager, c'était la meilleure prévention de l'Alzheimer. Et il disait, nous avons tous en nous, comme les cellules cancéreuses, des petites cellules d'Alzheimer qui sont tranquilles, bien au chaud dans notre corps. Et si nous surcompensons mais avec plaisir, hein, faut-il le faire, parce que sinon, c'est... Eh bien, cette activité intellectuelle, nous allons repousser la déclaration de la maladie. Et il le disait, il parlait d'un cas clinique d'un patient qui était un chercheur, qui était un homme très, très brillant, et qui a fait un Alzheimer tardivement, à plus de 80 ans. Parce qu'après, il s'est à peine mis en retraite ou en retraite en pointillé, il a continué ses recherches, son activité intellectuelle. Et donc il a déclaré son Alzheimer un beau jour. Il aurait pu ne pas en avoir. Mais le gériatre a pensé que grâce à son activité intellectuelle riche, ample et quotidienne, il a repoussé les limites de la maladie.
Oui, j'insisterai pas, mais simplement de faire connaître et de faire savoir qu'il y a des méthodes naturelles qui nécessitent aucun moyen particulier, sauf physique naturellement, qui permettent de l'éviter, tout au moins de prolonger la durée de vie dans des conditions les meilleures possibles.
Tout à fait.
Parce que ça paraît un peu assez élémentaire, mais il me semble que c'est pas très connu.
Alors, je ne suis pas très compétente en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, mais je crois que vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose que tout le monde doit faire. C'est d'ailleurs ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ce que dit mon copain sexologue parisien, c'est tout un tas de choses qui s'usent si on ne s'en sert pas. Alors il parlait de la sexualité, puisque c'est sa spécialité, mais ce sont les autres choses, la mémoire, l'intérêt, la marche, les muscles. Pour les continuer à les garder en bon état, le souffle, la respiration, tout.
Oui,
une activité. Alors, une activité, bien évidemment, quand elle est sportive, elle est adaptée à l'individu. Hein. Marche et nage, c'est très bien. Mais il y en a sûrement d'autres.
Excusez-moi, j'aimerais juste savoir, en fait, en tant que petite fille et enfant de parents qui vont vieillir, comment on peut accompagner nos parents et nos grands-parents, justement, dans la,
c'est
la fin de vie, et comment nous, on peut se protéger aussi pour éviter de trop souffrir, en fin de compte, et de mettre des limites.
Merci pour votre question.
C'est exactement ce que Annie proposait qu'on aborde un petit peu, et comment on peut, à la fois, c'est très intéressant ce que vous avez dit, à la fois avoir une vie, faire partie d'une fratrie, c'est merveilleux, mais à condition que des personnes de la fratrie ne vous dévorent pas ou ne vous accaparent pas. Et en même temps, garder des liens avec cette fratrie. Parce que, quand on vient au monde, on a la chance de s'inscrire dans un roman familial et dans une histoire transgénérationnelle qui va être merveilleuse. Et vous, vous êtes présentée comme petite fille. C'est absolument fabuleux. Donc, vous avez toute une lignée qui est parlante. Alors, comment faire? Eh bien, je crois qu'il faut avant tout rester proche de ses parents, continuer à les aimer, les critiquer, les gronder, ne les fait pas mourir symboliquement, bien au contraire, ça s'appelle même être adulte par rapport à eux. Hein, c'est ce statut d'adulte qu'on peut avoir par rapport à ses parents vieillissants, surtout s'ils deviennent insupportables. Donc, les gérer, leur dire ce qui ne va pas, continuer à les voir et à les aimer. Si on a la chance de les avoir, c'est absolument merveilleux, donc il ne faut pas s'en priver. Mais se protéger pour ne pas s'investir au détriment de sa propre existence. Je crois que c'est tout à fait important. Est-ce que vous êtes d'accord?
Comment justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accompagnement en fin de compte? Qu'est-ce que vous faites en tant que bénévole pour accompagner des personnes en fin de vie?
C'est différent. Est-ce que vous pouvez nous accompagner vos parents et puis...
Moi, personnellement, des grands-parents, plutôt.
Vous, en tant que petite fille, vis-à-vis de vos parents et vos grands-parents, c'est les aimer, tout simplement. C'est ça, les accompagner.
Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour les rassurer
Ça, c'est déjà important.
C'est le plus important. C'est pas évident de parler non plus de la mort avec ses parents ou ses grands-parents.
Alors, oui, ça, c'est déjà plus difficile à aborder, effectivement. Ça, c'est une question qu'on n'aborde pas spontanément, effectivement, en famille, évidemment. Mais si vous les rassurez, justement, quand on est malade, ou qu'on est près de ses parents ou ses grands-parents, ce dont ils ont besoin, c'était d'être rassurés, de ne pas être abandonnés, que vous continuez à venir les voir, à les aimer. Et c'est ça. Alors, effectivement, là, si vous êtes démunis, vous pouvez vous faire aider par des amis ou des proches, ou voire des bénévoles éventuellement. Hein, donc, je crois que c'est ça, surtout, dont auront besoin vos parents et vos grands-parents. Hein. C'est ça, je crois, qu'il faut oser dire. C'est que, en fait, les relations dans une famille, ben c'est pas le fait qu'on ait la fille de sa mère ou de son père, c'est parce qu'il s'est créé des liens, comme vient de décrire Madame Roesch, des liens d'amour, tout simplement. Et c'est ça qui va nous faire vivre et donner du sens à notre existence tout le long de notre vie. Et ça, si on l'a en nous, et on va devenir mère, et on va le donner encore, et grand-mère, et toujours comme ça. Hein, c'est, autour de vous, vous avez certainement des grands-mères qui ont... moi, je vais prendre l'exemple de ma mère qui est aujourd'hui décédée, qui avait 14 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants. Elle ne vivait que pour ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle, la veille ou l'avant-veille de mourir, elle tricotait encore la layette de celui qui allait naître. C'est extraordinaire comment les grands-mères et les arrière-grands-mères continuent de vivre parce qu'elles sont aimées, parce que elles sont, c'est ça qui est important. Hein. Je crois que effectivement, sans amour, on ne trouve pas de sens à l'existence. Hein. Alors moi, je suis un peu fleur bleue dans mes réponses, effectivement. Je crois que je n'ai pas les mots de Madame Roesch avec de la psychologue, hein, mais je crois que ça me semble important.
Les aimer, les visiter, voilà. Faire des choses ensemble, se rendre un petit peu disponible pour passer du temps. Moi je me dis toujours, ma maman qui a 84 ans, je me dis toujours, là j'ai encore toujours plein de choses à lui demander par rapport à la famille, par rapport à sa jeunesse, pour bien m'imprégner de ma lignée et en parler à mes petits-enfants, parce que je trouve que c'est très très important.
Et puis pour répondre à votre question, je voulais vous dire que personnellement, moi je pense que ce qu'il faut, c'est mettre de la vie à toute relation avec un ascendant ou un descendant, bien entendu, et que si vous parliez de la mort et de ces choses difficiles à aborder, mais si l'occasion s'en présentait, pourquoi ne pas dire tout simplement que la personne vous remplit tellement d'amour et vous laissera tellement de souvenirs qu'en fait, elle restera toujours en vous. Elle sera toujours présente et qu'elle vous laissera le plus beau cadeau, c'est-à-dire qu'elle vous aura appris des tas de choses que vous pourrez transmettre à votre tour. Je crois qu'il ne faut pas en rester à la disparition, il faut essayer de laisser toujours ce sentiment de vie et que ça continue et qu'en fait, on peut envisager le cycle naturel comme ça à partir du moment où il reste quelque chose profondément. Je vous dis ça parce que je suis accompagnante et que moi, je mets de la vie dans l'accompagnement. Même s'il y a de la mort au bout, c'est une vie encore plus intense qu'il faut mettre. Hein. Essayez d'en donner le plus possible. Voilà.
Moi, je suis des fois très, très étonnée dans mes thérapies de voir que des patients ou des patientes ont peu d'informations sur leur famille, savent peu de choses, n'ont pas cette curiosité de s'approprier ce roman familial dans lequel, en venant au monde, ils se sont inscrits. Et ça m'épate toujours de voir que des gens savent à peine ce qui s'est passé, en plus il y a souvent des secrets, vous savez bien, donc c'est là, on travaille beaucoup là-dessus, mais je suis des fois très étonnée de voir le déni qui est fait sur, alors il y a des on a des ancêtres qui peuvent être contrebandiers, qui peuvent être flibustiers, qui peuvent être qu'est-ce que ça peut faire, je veux dire c'est amusant, mais j'ai pris là des exemples un peu avec humour, mais de s'approprier ce qu'a été nos lignées. C'est vrai. Quand ils ont fait la guerre, ils ne veulent rien dire. Vous avez raison. Enfin, pas tout le monde. Des fois, c'est des choses...
Oui, c'est vrai. Ça, ça a été.
Ouais, elle n'est pas forcément toujours évidente, hein, c'est vrai.
Et il doit quand même y avoir, je suppose qu'il y a une explication, justement, qu'on ne peut pas généraliser, mais beaucoup de jeunes gens d'aujourd'hui, on va dire 25-30 ans, oui, je suis très étonnée, mais c'est un constat que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois. Des gens aujourd'hui qui ont 25-30 ans ne se sont pas intéressés justement à l'histoire de nos familles. Et je ne le comprends pas. Écoutez, ça, je ne suis pas concernée pour cette petite phrase, mais j'ai une amie qui me racontait, il y a moins de 48 heures, qu'en parlant avec ses petites filles qui ont 22-24 ans, elle ne savait pas la date d'anniversaire de leur papa. Eh bien, leur papa, c'est un monsieur très bien, qui est médecin dans le sud de Vienne, qui a très bien élevé, je veux dire, qui s'est toujours beaucoup occupé avec son épouse de ses quatre enfants. Eh bien, ces jeunes filles, 22-24 ans, ont fait cette sortie extraordinaire à leur grand-mère. Alors, la grand-mère, c'est donc la maman de ce médecin. Inutile de vous dire, ça lui a fait un choc. Que ces petites filles ne sachent pas la date anniversaire de leur père, la grand-mère, elle n'en est pas encore revenue. Hein.
Ben oui.
Mais j'aimerais savoir si dans la salle, est-ce que ça vous étonne ? Enfin, c'est incroyable de ne pas connaître la date d'anniversaire de son père.
Alors... C'est le rôle des grands-parents aussi de continuer à transmettre. Bon, elle a peut-être oublié la date, mais bon, après tout, non, continuer ça, à transmettre.
Non, mais c'est quand même extraordinaire, parce que ben c'est oui. quand même rare dans une famille qu'on n'évoque pas, même si on ne fait pas une fête extraordinaire, on parle souvent d'un anniversaire quand même.
Il y a sûrement des choses qui dysfonctionnent un petit peu dans cette famille. Hein. Je ne veux pas psychologiser à mort, mais bon, quand même... C'est peut-être au niveau de la communication, ça dysfonctionne un peu. Hein. Parce que c'est vrai, comme dit Annie, le rôle des grands-parents, c'est de parler à leurs petits-enfants, de raconter des choses. Tu vois, quand ton papa était petit, il aimait ça, il portait ça, ou il a fait telle bêtise, il a pris un feutre, il a fait un dessin sur la tapisserie, il a été puni, il a été au coin. Enfin bon, vous voyez, des choses comme ça. C'est notre rôle.
C'est capital, à mon
C'est
avis.
Capital, mais c'est aussi une histoire de lien, de comment on construit
mais
tout ça.
Justement, c'est très important, oui, je suis tout à fait votre avis, parce que justement, quand on a perdu son père et sa mère, c'est mon cas, eh bien, il m'arrive, 10 ans après la mort de ma mère, j'aimerais lui poser des questions.
Ben oui.
Il y a tant de choses que je n'ai pas sues. Que j'aimerais savoir ou avoir plus d'explications.
Eh oui.
Et c'est trop tard.
Eh oui.
Et ça, c'est terrible.
C'est pour ça que je vous disais que moi, avec la mienne, je me dépêche quand on se voit de lui poser plein de questions. On discute des fois jusqu'à 2 heures du matin.
Vous avez raison.
Oui, elle est ici.
Moi. Oui, juste pour répondre à madame. Vous êtes étonnée, effectivement, que ces jeunes filles ne sachent pas la date anniversaire de leur papa. Mais chez nous, par exemple, les anniversaires, c'est très important. Mais j'ai des amis chez qui on ne fête jamais l'anniversaire. Donc, quand on ne transmet pas certaines choses à ses enfants, ils ont beau être médecins, ils ont beau avoir été bien élevés, il y a des valeurs qui existent. Et quand les enfants ne les ont pas, on peut pas... elles sont différentes.
Ça,
c'est pas gravissime, mais bon, voilà.
Oui, mais c'est vrai que c'est... Ça voilà. appartient à la culture familiale. Que
voilà, exactement, oui. Et je voulais rebondir aussi sur l'accompagnement des personnes, effectivement, qui se retrouvent en couple avec des difficultés. Moi, j'ai fait 20 ans, effectivement, je suis infirmière, donc sur le domicile. Et je pense qu'il n'y a pas, effectivement, des psychos partout, et surtout à la campagne. Mais le rôle des soignants, c'est-à-dire quand on fait du domicile, entre autres, il y a des services de soins à domicile avec des aides-soignantes, des infirmières, des femmes qui font le ménage, qui interviennent. Je pense que là aussi, il y a une richesse. Elles n'ont pas une formation de psychothérapeute, mais elles écoutent, elles ont leur bon sens. Et moi, j'ai effectivement eu des choses extraordinaires avec des gens, entre autres, qui avaient vécu la guerre, avec des secrets d'enfants nés, tout ça, dont les propres enfants n'étaient pas au courant. Et il y avait une énorme souffrance chez ces femmes. Et c'est vrai que lorsqu'on essayait d'aborder le côté psy avec les enfants, c'était impossible. Et on laissait des personnes qui avaient 70, 80 ans dans une souffrance telle. Et moi, en tant que soignant, c'est vrai que ça, je trouvais ça raide quand même. Et les médecins traitants ne sont pas du tout formés là-dessus non plus. Donc, seul, je trouvais que le bon sens des gens qui accompagnaient, c'est-à-dire de l'aide à domicile, de l'aide soignante, de nous, les infirmières, eh bien, effectivement, on avait notre part et on les aidait. Et j'ai toujours été aussi stupéfaite de voir la difficulté de laisser les bénévoles intervenir dans, effectivement, cet accompagnement. Il y a des collectivités qui sont complètement opposé à ça. Et je trouve quel dommage, parce que effectivement les bénévoles font un travail énorme et qu'il y a effectivement une grande souffrance quand même chez les gens à domicile. Il y a des familles extraordinaires, mais il y a aussi des gens qui vivent et qui vieillissent et qui meurent extrêmement seuls. Alors la tendresse qu'on a pu avoir en tant que couple, elle a pu exister, mais on ne sait pas pourquoi à un moment. Alors moi, je pense avoir trouvé certaines réponses, mais c'est vrai qu'elle a existé, on a vécu, on a semblé être heureux, puis à un moment, il y en a un qui va moins bien, et là, tout se casse, quoi, et c'est vraiment douloureux. Et quand vous disiez l'importance d'avoir été aimée, cajolée, tenue par une mère, mais il y a effectivement quand même pas mal de gens qui n'ont pas malheureusement eu ça. Donc il faut vieillir avec ça, et il faut vieillir à deux, et des fois seul. Mais bon, en tout cas, merci de votre intervention et des questions, des réponses que vous avez pu nous donner. Mais je pense qu'il faut faire confiance aussi aux gens qui interviennent et entre autres aux aides à domicile qui ont, je trouve, un manque de reconnaissance et qu'elles font un travail effectivement énorme et elles apportent effectivement à ces gens. Donc notre gouvernement a mis des choses en place, mais effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire. On est d'accord. Merci.
Merci pour votre témoignage et merci bravo.
Mais vous savez, une grande partie de la psychologie théorique, c'est aussi le bon sens. Hein. Quand on a du bon sens et qu'on sait que bon, il y a des choses qui doivent être faites comme ça et qu'on les verbalise et qu'on les dit, c'est mieux. Et quelquefois, c'est vrai que c'est pas forcément nécessaire de faire des études de psycho, ça va de soi. Hein. Je pense par exemple à des enfants qui sont mal aimés, puis il y en a d'autres qui sont utilisés d'une autre façon, qui sont avec des mères célibataires, où les petits sont dans le lit de la mère, par exemple, hein, et où on fait en sorte qu'ils réintègrent leur chambre et qu'ils ne partagent plus le lit de la maman. Bon, ben ça, c'est du bon sens. Hein, on peut venir faire un petit câlin le dimanche matin pour dire bonjour à maman, jouer, et puis après, les nuits se passent dans la chambre. On n'a pas besoin, sur le plan oedipien, on peut le théoriser évidemment, mais quand on est confronté à des choses comme ça, c'est du bon sens. Mais vous savez que les travailleuses familiales ou les aides ménagères ont des formations super bien. Je le sais parce que je suis intervenue. Donc, elles ont des formations, y compris. Oui. C'est dommage.
Elles n'ont pas les moyens de prendre le temps, oui.
Non, puis ça ne l'aurait pas autorisé dans le cadre.
Il y a un monsieur qui veut prendre la parole.
Oui, c'est juste une phrase, et elle n'est pas de moi, elle est de André Gide.
Oui.
Et André Gide, il disait, je commencerai à vieillir le jour où j'aurai cessé de m'indigner.
D'accord. Merci.
Merci.
Quelqu'un veut prendre la parole ou poser encore une question? Vous voulez qu'on arrête là? Bon, alors nous remercions Madame.
Ah, attendez, oui, encore pardon. Une question?
Je voulais dire qu'à Poitiers, on avait la chance extraordinaire
prenez le micro.
Oui, je voulais dire, pour bien vieillir, on parlait tout à l'heure de ne pas oublier le corps, mais il ne faut pas oublier la tête. Et à Poitiers, on a la chance extraordinaire d'avoir une association pour des ateliers mémoire avec une personne qui est psychologue, chercheur à la fac et tout. C'est pas un truc rigolo. Oui. Et qui est vraiment extraordinaire. Et ça s'appelle la mémoire... la mémoire récréative, pas récréative, récréactive, parce que ça se passe dans la bonne humeur. Ça permet de rencontrer d'autres personnes. Oui. Donc, le siège social de cette association est à la M3Q. Mais elle intervient dans plusieurs endroits dans Poitiers, y compris à Châtellerault. Donc selon, elle intervient à Saint-Benoît, à Châtellerault, à la M3Q, aux Trois Cités, à Buxerolles. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment extraordinaire et ça permet de, non pas d'améliorer sa mémoire, mais au moins de l'entretenir, de la conserver. Et ça, c'est pas partout en France. On a de la chance d'être à Poitiers, donc il faut le savoir.
Merci pour l'information. Maintenant, nous remercions Madame Michèle Horvèche pour votre intervention. Merci beaucoup. Et puis, on peut applaudir. Avant de se quitter, en partant, je souhaiterais que vous déposiez les petites fiches, si vous les avez remplies, qu'on vous a déposées sur vos chaises. Si vous voulez adhérer, vous pouvez prendre... une adhésion en partant ou venir nous rejoindre à notre association au local 16 rue Alphonse Daudet. Il y a des dépliants où il y a l'adresse et puis nos coordonnées si vous voulez nous téléphoner. Voilà, bonsoir et merci.